Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio.
Aaron Rodgers et les Packers font leur entrée dans les séries d'après-saison. Et ils ont rendez-vous avec l'équipe Cendrillon de 2022. Les Titans du Tennessee retrouvent leur porteur de ballon Derrick Henry et il est prêt pour une autre performance monstrueuse. C'est la consternation à Dallas après une autre défaite au premier tour des séries. Et rien pour rassurer les partisans des Cowboys, Mike McCarthy sera de retour l'an prochain. Quelle équipe sortiront vainqueurs dans la deuxième ronde des séries? Nos experts de la zone payante se prononcent. Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à la zone payante, une semaine de séries. Jean-Nicolas Gagné avec vous. Et je suis en compagnie de mes deux experts, Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Salut les gars!
Salut messieurs!
Salut!
OK, on commence si vous voulez bien les gars avec l'histoire de la fin de semaine parce qu'on dit toujours que les Cowboys attirent toujours plus d'attention que les autres équipes dans la Ligue, c'est de America's Team. Mais là, en fin de semaine, franchement, là, une fin de match sans queue ni tête. Un propriétaire qui a dû s'expliquer dans un scrum tout désorganisé après le match en disant que les partisans méritaient mieux. Un entraîneur toujours en place, là, alors que c'est comme s'il multipliait les hérésies. Premièrement, comment expliquez-vous la fin du match de cette semaine? Et franchement, si vous êtes un partisan des Cowboys, comment voir la lumière au bout du tunnel?
C'est quand même spectaculaire parce que les Cowboys, là, ça fait 11 fois qu'ils vont en série. Les 11 dernières fois qu'ils sont allés en série, ils n'ont pas atteint la finale de conférence. Puis, ils osent encore s'appeler l'équipe de l'Amérique. C'est presque un scandale déjà là. Puis, les fameuses 14 secondes de la fin. J'ai hâte de voir ce que j'en pense, mais écoute, pour moi, la première des choses, c'est pas assez pour appeler un jeu comme ça. Le jeu comme tel, pour aller chercher des verges dans le milieu du terrain, est pas mauvais. S'il reste 16, 17, 18 secondes, quelque chose comme ça, j'ai pas de problème. 14 secondes, tu prends un gros risque. Donc là, première question que je me pose, pourquoi Kellen Moore a appelé ce jeu-là? Parce qu'on dit tout, quel mauvais call de McCarthy. Non, c'est Kellen Moore. Ensuite, pourquoi McCarthy a approuvé? Parce que c'est ça, là. Moore a donné son choix de jeu, McCarthy a dit « go, on y va ». L'autre question qui me vient en tête, pourquoi Dak a pas glissé plus tôt? Tu sais, il y a plusieurs coupables pour moi là, sur cette séquence-là. Dak pouvait glisser certainement une seconde ou deux avant. Ensuite, pourquoi il a remis le ballon à son centre plutôt qu'à l'arbitre? Il y a bien des fans des Cowboys, malheureusement, qui se plaignent. L'arbitre était dans les jambes. Excusez-moi, mais l'arbitre, faut qu'il aille là. Il a pas le choix. Il sprintait à peu près 25 verges plus bas sur le terrain. C'est lui qui doit mettre le ballon en jeu. Le centre des Cowboys, là, écoute, il peut pas décider qu'il part le ballon quand ça y tente au spot où ça y tente. On n'est pas dans la rue, les gars, là. On joue pas au football sur le terrain en arrière, là. C'est un peu plus sérieux que ça. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été mal exécutées. Puis l'autre chose, moi, que j'aimerais dire, c'est que on a beau blâmer ces 14 secondes-là. Là, les Cowboys, les fans, tout ça capote avec ça. Tout le monde analyse les 14 secondes. Faut pas oublier des affaires, là. Les Cowboys ont donné 169 verges au sol. Ils en ont couru pour seulement 77. Ils ont donné 5 sacs du corps. Ils ont complété moins de 60 % de leurs passes. Puis surtout, ils ont eu 14 punitions. Fait qu'à un moment donné, je veux bien qu'on parle des 14 secondes, mais il faudrait aussi blâmer la défaite sur les 59 minutes et 46 secondes qui ont précédé. Ça, c'est important, je pense, de le mentionner.
C'est très important. Première des choses, je vais revenir sur le jeu appelé. Là. Moi, j'ai pas de problème avec le jeu. T'as le temps normalement. Ce que j'ai un problème, tu l'as bien dit, Stéphane, c'est que ça a mal été exécuté. Ouais. Le jeu en tant que tel, il y a pas de problème. Mais faut que
mais Dak. C'est quand même un jeu à haut risque. Là.
14 secondes, moi, c'est le bug que j'ai.
Moi, j'ai pas nécessairement de problème avec. C'est un jeu qu'ils ont pratiqué. Les deux entraîneurs, McCarthy et Moore, l'ont dit. C'est un jeu qu'on a fait souvent en pratique. C'est un scénario qu'on voyait. Ben, si tu l'as fait, pourquoi il a été mal exécuté? C'est ça la question. Pourquoi ça a été tout croche? Pourquoi Dak a pas glissé 2-3 verges avant? Parce que justement, le temps pressait. Et surtout, pourquoi il a pas remis l'arbitre, donné le ballon à l'arbitre immédiatement?
T'es-tu c'est d'accord ça. Que les gens ont pas raison de blâmer l'arbitre? Là? C'est
quoi? Non, l'arbitre a fait son travail exactement comme il fallait qu'il le fasse. Point final. C'est sûr que ça aurait été peut-être plus le fun si ce serait pas enfargé un peu là dans, oui. dans les joueurs de ligne, mais c'est le joueur de ligne aussi à lui faire la place.
Ben apparemment passer. Que je suis pas un expert, mais que pour gagner une ou deux secondes, Dak Prescott aurait même dû chercher l'arbitre pour y donner
le ballon. Écoute, et voilà. un des meilleurs joueurs pour ça, allez voir des vieux tapes de Larry Fitzgerald comme receveur à Arizona dans les 2 minutes ou dans les. C'était un des meilleurs joueurs pour ça. Il prenait son catch, il sprintait puis il allait donner le ballon à l'arbitre. Tu sais, c'est aussi simple que ça, là. Ça fait que c'est...
Bon, rapidement, si on est un partisan des Dolphins, j'allais dire, des Cowboys, vas-y.
Mais je suis un peu d'accord avec Stéphane. Le match s'est pas joué là du tout. Puis même si il avait réussi à spiker le ballon puis à avoir un jeu... Tu sais, je veux dire, t'as moins
c'est de 10%. Gagné,
mais non, je veux dire, c'est moins de 10% selon moi là,
ben
de,
oui,
de chance de réussite. T'es au 25 avec à peu près toute la défensive des Niners dans la zone des buts. Ça aurait pas été facile, là. Donc, c'est ça, ça s'est pas
c'est
joué
pas
là.
Un slam dunk.
Pour moi, Kellen Moore est vraiment à blâmer aussi beaucoup dans cette rencontre-là. Moi, il m'a montré son inexpérience. Les gars, là, il tirait pas de l'arrière par 4 touchés, là. Il lançait à tous les jeux. Je veux dire, toute la saison, les Cowboys ont été équilibrés, se sont servis de la course au sol. Et là, bouton panique, on tire de l'arrière, faut lancer à chaque jeu. Ben, ça a donné le résultat qu'ils ont eu. Puis ils ont été chanceux de revenir dans le match. C'est vraiment une bourde de Jimmy Garoppolo qui ont ressuscité un peu l'espoir des Cowboys. Ce match-là, pour moi, il était pas serré. Puis défensivement, tu savais que tu devais arrêter le jeu au sol des Niners. Tu savais que Deebo Samuel serait impliqué de différentes façons. Puis t'as pas été capable de rien faire. Et les punitions, les gars, ça dénote pour moi un grand manque de l'entraîneur-chef. Puis ça a été un problème toute la saison. Puis toute la saison, je disais, Mike McCarthy, à un moment donné, ça va revenir l'hanter.
C'est l'équipe la plus pénalisée de la Ligue. 127 punitions cette année. Sur les fameuses 14 punitions que j'ai parlé, là, il y en a 8 qui ont directement donné un first down aux Niners ou qui ont coûté un first down aux Cowboys. C'est énorme, énorme, énorme dans le match.
Bon, mais en tout cas, on parlera peut-être un jour de cet été comment on va voir les les pauvres Cowboys se relever de ça parce que ça va laisser des cicatrices quand même, cette défaite-là. Une autre défaite crève-cœur alors qu'ils étaient favoris en série.
J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec leur personnel parce que ils veulent garder McCarthy, mais ils risquent fort de perdre Dan Quinn puis peut-être même Kellen Moore. Tu sais, ça va brasser à Dallas là, dans les prochaines semaines.
OK, merci les gars. Restez là parce qu'après la pause, ben là, on débute notre match. Plusieurs sujets cette semaine dans la NFL. On en traite avec nos experts. Bougez pas.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Here comes Houston! Here it comes, first down, c'est Red Cashin.
C'est l'heure du match, notre premier essai à la zone payante en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Messieurs, je vais commencer avec Stéphane, parce qu'il y a encore du monde qui perd leur job dans la NFL cette semaine. Peux-tu nous faire un petit survol de ce qui se passe au point de vue des entraîneurs et des directeurs généraux, entre autres Mike Mayock, qui s'est vu montrer la porte?
Oui, ça a été surprenant, ça a pris de court, parce que Mike Mayock, c'est le timing. Il y avait des rumeurs dès le repêchage l'an passé qu'il allait faire le repêchage, puis qu'après, c'était fini. C'est pas arrivé, donc on se disait, finalement, il conserve son poste. Gruden est parti. Ah, on va voir après la saison. Après la saison, ben non, il est toujours là. Ce qui est étrange à Vegas, la façon que ça s'est passé, ça fait typiquement Raiders et famille Davis, là. Mike Mayock a pris son congédiement quand il a vu des annonces passer comme quoi on demandait à des DG d'être interviewés.
Ben non.
Je te jure, ça s'est passé comme ça, puis c'est là qu'il y a un manque de classe, honnêtement. Tu peux dire que Mike Mayock a pas fait sa job, ça. On peut être d'accord, on peut être pas d'accord, mais tu peux très bien le dire, puis tu peux sortir des arguments pour démontrer qu'il a pas fait sa job. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais la façon que ça s'est fait en broche à foin, écoute, là, il se ramasse dans le building, puis il apprend que, hey, comment ça qu'ils ont demandé un tel de telle équipe en entrevue pour le poste que j'occupe? Ben, que j'occupe plus, visiblement. C'est moyen.
J'avais pas vu passer ça. C'est...
Non, c'est très moyen. Moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé dans l'histoire, parce que Mayock, il y en a plusieurs, avec raison, qui parlent de ses mauvais choix de première ronde. T'sais, écoute, je les ai pas toutes devant moi, mais mettons, on pense à un Damon Arnett. Clelin Ferrell, ça a été atroce. Même Jonathan Abram, qui est quand même récupérable, mais que c'est pas encore un joueur qui vaut son statut. Mais par contre, il a fait des belles trouvailles, je trouve, dans les rondes un peu plus éloignées. Là. On a juste à penser à Hunter Renfrow. Je pense que c'est un choix de 6e ou 7e ronde. Max Crosby, qui est un choix de 4e ronde. Nate Hobbs, bon, il s'est fait une bourde à la fin de l'année là, en se faisant prendre avec l'alcool au volant, mais il reste que c'est un demi de coin qui connaissait une excellente saison recrue. C'est un choix de 5e ronde. Donc, il y a eu quelques trouvailles. Puis, il faut se demander, est-ce que tous ces choix-là, les bons comme les mauvais, c'était les choix à Mayock ou c'était les choix à Gruden? C'était qui vraiment le boss là-bas? Donc, Mayock perd sa job, finalement. Ça va être un dossier à suivre. L'autre qui perd sa job, c'est David Culley, l'entraîneur-chef des Texans. Lui, écoute, c'était clair, c'était l'agneau sacrifié là, avant même la saison. Sans farce, les gars. Il n'y avait aucune chance de survivre là-bas, à part si, contre toute attente, il était arrivé à Houston avec une saison gagnante. Là. Il s'en allait là, pas de line-up, pas d'équipe, aucune attente. Puis on sentait un peu Nick Caserio, le directeur général là-bas. On le sait, il vient de l'organisation des Patriots. Puis on sent qu'il veut implanter sa gang un peu, là, amener un autre système à la Patriots. Est-ce que ça va être Josh McDaniels? Est-ce que ça va être Brian Flores? Peut-être pas, là, mais ça s'enligne un peu comme ça. On veut recréer la famille un peu, donc ça va être à surveiller. Puis juste dans les mouvements de personnel, une petite mention, parce que je pense que c'est très important. Une dame de chez nous, Catherine Reich, en entrevue, elle a passé son entrevue, je pense, lundi avec les Vikings pour le poste de directrice générale. C'est quand même gros, puis je pense pas honnêtement que c'est... Il y en a qui, les mauvaises langues vont dire, c'est juste un stunt publicitaire que les Vikings font. Je pense pas. Elle a quand même des compétences. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans le football professionnel avec les Alouettes, avec les Argonauts. Elle a fait un petit bout dans la XFL. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle est avec les Eagles. Si vous me demandez mon avis, elle a peut-être pas encore assez d'expérience NFL pour obtenir le poste. Mais je pense que c'est toute une tête de football et qu'elle va avoir sa chance tôt ou tard. Si c'est pas cette fois-là, son nom va revenir, c'est sûr et certain. Écoute, en l'espace d'un an et quelques, elle est montée vice-présidente aux opérations football des Eagles. Il n'y a pas de charité là, dans la NFL. Là. On donne pas un poste à une femme parce que c'est une femme pour bien paraître. Les Eagles savaient certainement ce qu'ils faisaient avec elle. Puis si c'est pas la job avec les Vikings, il y en aura d'autres. Je suis convaincu qu'il va avoir des bonnes nouvelles dans son cas assez rapidement.
Quelle fulgurante ascension.
C'est incroyable.
Oui, quand même. Et dans le cas de Mayock, je vais juste rajouter. Moi, je me mets dans ses souliers, puis il dit, OK, là, vous m'avez mis Gruden dans les pattes, puis en plus, vous bousillez la façon que vous me mettez dehors. Ce gars-là,
tu en as fait les plaisirs.
Très heureux. Là,
avouez que c'était pas chic. Là.
Ah non, c'était horrible, puis moi, je pense vraiment que les choix, surtout le premier round, ont été influencés par John Gruden. Donc, je me demande à quel point il a eu la liberté de faire son travail. Puis là, il se fait mettre dehors, man. C'est cruel, la NFL.
Jean, je te donne le ballon pour le deuxième essai. On va revenir sur un peu la fin de saison des Cards, une équipe que tu as suivie quand même beaucoup du coin de l'œil cette saison. Et on a fait un peu le rappel des fins de saison de Cliff Kingsbury, l'entraîneur. Mais là, il pense que lui, en fait, la défaite, il l'explique en partie par le manque d'expérience de son équipe en fin de semaine. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Puis est-ce que lui, il commence à être un petit peu moins un peu moins populaire en Arizona?
Oui, je suis un peu en accord. Je pense que ça fait partie du processus parce que les Cards sont quand même jeunes à des positions clés, dont évidemment au poste de carrière. Mais tu sais, ils ont d'autres jeunes joueurs défensivement aussi. Est-ce qu'ils étaient prêts à ce niveau-là? Peut-être pas. Par contre, lui, Kingsbury, doit se regarder dans le miroir puis faire un bon mea culpa parce que c'est pas nécessairement chic ce que j'ai vu. La vérité, c'est que depuis la perte de DeAndre Hopkins, l'offensive a dégringolé. Il n'y a eu aucun ajustement vraiment de la part de Kingsbury pour fouetter un petit peu cette attaque-là. Puis la vérité, moi, je pense qu'il y a une bonne saison. Là. Les Lakers ont une excellente saison, mais on voit les limitations, pour moi, de Cliff Kingsbury dans les dernières semaines comme entraîneur. C'est un entraîneur qui provient de la NCAA. NCAA, ben, t'es habitué d'avoir une centaine de joueurs sous ta main. En NFL, t'en as 55, t'en as 48 qui jouent, là. C'est beaucoup moins. Puis quand il y a un joueur comme ça qui est ton meilleur joueur offensif qui tombe, ben, NCAA, t'as pas besoin de modifier ton schéma offensif. Tu peux continuer avec ce que tu fais. Tu remplaces tout simplement un joueur par un autre. Puis la différence est pas si majeure que ça en général.
Mais dans la NFL, AJ Green, c'est pas D-Hop.
Exact. AJ Green vieillissant, c'est pas D-Hop. C'est pas ton tu sais, tu viens de tomber numéro 2 à numéro 1. Puis lui, il a pas changé ses schémas offensifs. Et que pour moi, ben il y a ce qu'il a, ben ils ont ce qu'ils ont mérité, tout simplement. Puis c'est important de le mentionner. Il faut vraiment, je pense, qu'il se regarde comme il faut dans le miroir. Puis est-ce que j'ai fait le meilleur travail que je pouvais? Moi, je pense que non. Donc, dans ce cas-là, il va falloir que lui aussi s'améliore avec son équipe, tout simplement.
Puis un mot sur Kyler Murray, là, qu'on voyait comme MVP là, à mi-saison.
Oui, écoute, moi, c'est sûr que j'ai pas nécessairement aimé son non-verbal là, durant le match, mais des fois, moi, je porte pas nécessairement trop attention à ça, mais je trouvais qu'il faisait un peu la moue, mettons, là, durant le match.
Comme si c'était pas de sa faute.
J'ai pas trouvé qu'il avait l'air d'un grand leader, personnellement.
Exact. Moi aussi.
C'est juste ça. Puis je suis pas en train de dire que là, c'est un bum puis qu'il faut passer à autre chose, mais je pense qu'il y a des choses à apprendre côté leadership.
Exact. Moi, je te suis là-dessus. Mais comme j'ai dit, ils sont très jeune à des positions clés, puis Murray, ça en fait partie, puis il est capable du meilleur et du pire. Ça, c'est une autre affaire aussi. Pourquoi Kingsbury a pas fait courir Murray un peu plus que ce qu'on a vu? Il y a beaucoup de choses que je m'explique mal, puis si ce club-là veut progresser, pour moi, c'est clair qu'il doit avoir plus de concepts NFL au niveau aérien. Ce qu'on voit des Cards, il y a beaucoup de concepts universitaires au niveau des schémas offensifs, mais faut qu'il arrive dans la NFL justement dans des situations comme ça où ce que là, si t'as une blessure, ben t'es capable de t'en sortir parce que t'as justement un schéma qui te dérangera pas nécessairement trop le fait que t'as une blessure. Là, avec le schéma offensif qu'ils avaient, ben la blessure à Hopkins a été catastrophique. Il y a eu aucun ajustement, comme j'ai mentionné.
OK, merci. Troisième essai, les gars, on va avoir une petite discussion ouverte. On a commencé à parler un peu de ça ensemble avant l'émission, mais là, j'aimerais ça qu'on en parle parce que 14 équipes dans les séries, c'est nouveau. En fait, c'est récent depuis l'an passé. Mais là, en fin de semaine, là, il y a plusieurs personnes qui se sont assises devant leur télé en se disant « Ah, oh, là, on va avoir des bons matchs. » Puis après un quart ou des fois un quart et demi, c'était presque terminé puis il n'y avait plus d'intérêt au match. Est-ce que 14 équipes dans la NFL qui font les séries, c'est trop? Et qu'est-ce qui explique les blowouts de la fin de semaine?
Vas-y, Jean. Commence.
Ouais. Ben, écoute, je vais commencer. Ben, première des choses, tu sais, faut regarder aussi le big picture, d'un vol d'oiseau.
La grosse photo.
L'an passé, ça n'a pas été problématique. Les matchs ont quand même été serrés. Je dirais même les 6 matchs ont pas mal été serrés. Peut-être juste les Browns et les Steelers. 48-37, ça a l'air serré, mais ça ne l'avait pas été tant que ça. Mais le reste des matchs avait été serré. Donc, cette année, c'est beaucoup plus là qui est le problématique. Mais pour moi, c'était évident que le geste de la NFL d'agrandir puis faire les séries, ça ouvre la place à ça. Il y a des moins bonnes équipes en série. Puis il y a peut-être une plus grande différence entre les bonnes équipes et les moins bonnes. Par contre, faut voir aussi l'autre côté de la médaille. Est-ce que la saison régulière était plus fun? Je pense que oui aussi.
On a eu une fin de saison spectaculaire, honnêtement.
Spectaculaire, parce qu'il y a tellement d'équipes qui peuvent espérer plus qu'avant. Tu sais, avant, tu commençais, 1-4, puis c'était terminé. Là, tu peux encore espérer, justement parce qu'il y a un spot de 7e équipe qui peut faire les séries.
Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a juste un bail. Ben, tu sais, il y a quand même des équipes qui se battent aussi pour le positionnement. Puis, fait qu'il y a toutes sortes de luttes jusqu'à la fin, là. Mais c'est certain que les 7e équipes, c'est pas nécessairement les équipes de grande qualité. Mais je regarde, puis je te donne un point, là. Tu sais, l'année passée, le 7e seed, donc l'équipe classée 7e dans l'AFC, c'était Indianapolis, puis il avait perdu par 3 contre Buffalo, qui s'est retrouvé en finale de conférence. Fait que c'est pas nécessairement ce qu'on a vu qui va arriver à chaque année, là. Je pense pas qu'il faut tirer une conclusion hâtive.
Puis un point que j'aimerais ça mentionner aussi, moi je suis convaincu que les Chargers auraient fait un meilleur boulot et les Saints également que les 7e équipes qu'on a vues cette année.
Puis moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que on a le droit, là, comme amateur, c'est tout à fait légitime de dire « Ouais, est-ce que ça nous a amené un bon spectacle? » Non. Est-ce que la formule d'avant était mieux? Oui, probablement. Mais la NFL, ça, c'est malheureux, puis on n'a pas de contrôle là-dessus comme partisan, là. Mais ils ont pris une décision business en extensionnant le format des séries. Puis écoute, ça, là-dessus, là, ça leur amène du cash comme on ne peut pas imaginer. Juste CBS puis NBC, les grands réseaux, ils ont payé autour de 70 millions pour ces matchs additionnels-là de wildcard, là. Imaginez un peu la machine, tu sais, l'argent qui rentre à profusion. Écoute, ça nous parle peut-être pas à nous, puis on se dit, ouais, mais ça n'empêche pas que le format était meilleur avant. Je le sais, mais il y a quand même une ligue derrière ça qui imprime de l'argent, puis des propriétaires qui impriment de l'argent. Ça va être dur de revenir en arrière.
C'est tout. Non, ça, on ne reviendra pas en arrière. C'est toujours à propos de l'argent. Puis l'autre point, Steph, écoute, je regardais, c'est 90 des 100 émissions les plus regardées à la télévision,
ouais.
C'est des matchs de la NFL.
C'est ça.
Tu sais qu'on parlait il y a 2 ou 3 ans, là, rappelez-vous de l'époque où les joueurs mettaient le genou à terre durant l'hymne national, les gens parlaient d'une crise des codes d'écoute. Ça m'a toujours fait absolument rire, ça, une crise des codes d'écoute, parce qu'à chaque année, bon an, mal an, c'est à peu près 90% des shows télé américains les plus regardés, c'est les matchs de la NFL. Là. Que le monde le veuille ou non, là, il n'y en a jamais eu de crise des codes d'écoute.
Alors, Money Talk, ça, c'est pas une surprise pour la NFL, mais on va voir en fin de semaine si c'est là que les équipes vont commencer à jouer des matchs un petit peu plus serrés. Mais on dit au revoir aux Eagles, aux Pats.
Oh, j'ai confiance qu'on ait des bons matchs en fin de semaine.
OK, merci les gars. D'ailleurs, après la pause, là, on va répondre aux questions des auditeurs. De plus en plus, les auditeurs nous envoient des questions parce qu'ils commencent à voir soit que la saison morte va changer quelque chose pour leur équipe, ou soit qu'on se rapproche du Super Bowl et là, les enjeux grimpent. Restez là. Vous êtes sur la zone payante et c'est l'heure des questions des auditeurs. Plusieurs bonnes questions encore en fin de semaine.
Vous êtes très pertinents, messieurs, dames, les auditeurs. On vous aime bien.
Oui, mais tu vois, juste avant de commencer, je me suis fait poser une question aussi. Est-ce que vous savez c'est quoi qu'ont en commun un facteur et les Cowboys de Dallas?
il passe pas le dimanche, le Vecteur.
Il livre pas le dimanche, c'est ça.
Oh, j'aime ça. Ben, j'aime ça. J'en ai pas contre les Cowboys. Il y en a qui détestent. C'est pas ça. Mais honnêtement, c'est un peu drôle, là, tout ce qui est arrivé en fin de semaine, là, parce que c'était des voix réagir après. C'était la panique nationale. Puis ça...
Mais écoute, elle était quand même facile. Je l'avais pas entendu, mais écoute, la meilleure joke de Mailman, je vais faire référence à la NBA, mais c'est Karl Malone qui, avec Scottie Pippen au lancer franc, qui était allé dire, écoute, le Mailman, il passe pas le dimanche. Évidemment, les Jazz s'étaient inclinés devant les Bulls.
Voilà.
Régent Perron, un auditeur qui nous pose la question. Compte tenu des récentes performances de Beckham avec les Rams, à votre avis, quel était le problème à Cleveland? Lui ou Baker?
Ben, je vais laisser Jean commencer parce que à tout seigneur, tout honneur, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr, ça me fait mal celle-là. Mais écoute, faut pas nécessairement halluciner. C'est sûr que présentement, OBJ joue du bon football. Sa production a vraiment augmenté. Écoute, il n'y a eu aucun touché cette année avec les Browns, aucun. 6 depuis qu'il est arrivé avec les Rams, mais c'est pas le même rôle. Et ça, c'est important, messieurs. Avec les Rams, il tombe numéro 2. Il est derrière Cooper Kupp, qui s'est fait doubler à peu près sur beaucoup, beaucoup de séquences dans le match des séries. C'est ça qui fait que ça ouvre la porte un peu au BJ. Et l'autre problème que je voyais aussi, c'est un problème de schéma offensif. Je pense que les Rams sont plus pass happy. C'est un schéma offensif qui convient plus à Beckham Jr. Mais pour répondre à la question, cette année, c'était Mayfield le problème. Il a été horrible. Et c'est ça. Point final.
Il a été horrible, mais il a été scrap toute l'année. Là. Tu sais, j'ai regardé les conférences de presse.
Il y a une explication, mais il a quand même été horrible.
Oui, tout à fait. Mais tu sais, je regardais, je pense, c'est Case Keenum qui mentionnait après la saison dans sa conférence de presse de sortie. Il disait, il y a des semaines que j'ai vu ça aller, puis c'était un miracle hebdomadaire d'amener Baker Mayfield sur le terrain. Il dit, rendu au vendredi, on se dit, OK, c'est impossible. Puis paf, le samedi, un remède de cheval, puis... fait que tu sais, il a été vraiment magané. Moi, j'y donne le bénéfice du doute une dernière année à Baker. Tu sais, je pense que j'entends partout les Browns, est-ce qu'ils devraient aller ailleurs, l'échanger, whatever. Tu y donnes une dernière année, t'espères qu'il reste en santé parce qu'il y a quelque chose, je pense, quand même à faire avec lui. Il y a moyen de le rescaper. Et, côté attitude, Baker, Odell, c'est clair qu'il est plus heureux à Los Angeles aussi. Je pense que ça fit plus avec sa personnalité, son extravagance. LA, les grosses lumières, les vedettes, tout. J'ai pas l'impression qu'il a jamais été vraiment heureux totalement d'être à Cleveland, tu sais, pour tout ce qui est publicité, etc. Là, il était peut-être juste pas à sa place.
Max Laprise nous pose la question. Quelles sont les deux équipes qui sont le mieux placées pour un 2 à 5 ans? Donc, pas dans l'immédiat, et les deux équipes qui, dans 2 et 5 ans, seront au bas du classement. Pas facile, cette question-là.
C'est une bonne question, honnêtement. Puis, ça demande réflexion, mais sur le coup, moi, les deux équipes les mieux placées, j'ai tendance à y aller pour Cincinnati et les Chargers.
Ouais, j'ai les mêmes deux.
Si on parle de... Moi, j'y vais plus sur le 5 ans, OK? Parce qu'il y a dit 2 à 5 ans, c'est ça?
Exact.
Ouais.
2 ans, là, je pourrais te dire les Chiefs, les Bills vont être encore là, les Packers, si Rodgers est là, ils vont être encore là, mais j'ai plus le goût d'y aller dans un peu plus loin. Là. Les Chargers, bon, c'est sûr qu'il reste la défensive contre la course qu'il faut améliorer. Les Bengals, c'est la ligne offensive. C'est clair qu'il y a des besoins, c'est pas des équipes parfaites, mais est-ce qu'il y en a des équipes vraiment parfaites? Non. Puis ils ont la situation idéal au poste de carrière avec Joe Burrow, Justin Herbert, qui sont surtout sur des contrats recrues puis qui performent au plus haut niveau. Ça, ce que ça te permet de faire, justement, c'est d'investir massivement sur tes lacunes pendant que tes carrières te coûtent pas trop cher. Tu sais, dans 5 ans, là, OK, Burrow puis Herbert vont être multimillionnaires. Mais pour les prochaines années, ça va être très, très important d'investir bien et fort autour d'eux autres, là, parce que, en plus, si je me trompe pas, c'est deux équipes qui sont dans le top 5 ou à peu près au niveau du cap salarial, là, c'est-à-dire de l'argent qu'ils peuvent investir en 2022. Donc, pour moi, c'est clair que c'est les deux équipes qui sont les mieux placées. Puis, pour répondre à l'autre question, les moins bien placées dans quelques années, écoute, je parlais du côté salarial, les Saints vont être dans le sérieux pétrin à un moment donné, là. Ils arrêtent pas de pelleter par en avant leur contrat. Sauf que sont quelque chose comme 70 millions au-dessus du cap actuellement. À un moment donné, tu sais, ça va saigner. Là. Tôt ou tard, ces problèmes-là, tu es obligé de les adresser. Puis j'irais même jusqu'à dire, pis ça peut fesser, mais d'ici, je parle pas l'année prochaine, je parle pas l'autre d'après, mais d'ici 5 ans, on s'entend, les gars? Je pense que les Rams pourraient être dans le
ben
coup
oui,
aussi.
Ben oui,
parce qu'ils ont hypothéqué leur futur pour gagner maintenant. C'est bien, c'est une formule qui les amène en série année après année, qui les rend comme des prétendants au Super Bowl. C'est leur formule. OK, c'est parfait. Mais dans 5 ans, ça se pourrait que ça devienne très difficile. Écoute, en ce moment, leurs 5 grosses vedettes, là, Aaron Donald, Jalen Ramsey, Matthew Stafford, Cooper Kupp puis Leonard Floyd, ils comptent pour 53% de leur masse salariale. C'est gigantesque. Fait que, tu sais, dans quelques années, les Rams pourraient potentiellement être voir l'autre bout, là, disons, de l'autre côté de la médaille.
De mon côté, ben écoute, j'ai les deux mêmes équipes, je pense, dans 5 ans. Écoute, ça part du carrière.
Ouais.
Puis les deux équipes sont bien placées. Joe Burrow, on l'a vu, on le voit avec les Bengals, il fait des miracles. Puis évidemment Herbert avec les Chargers, les deux équipes ont beaucoup d'espace sur la cap salariale. Pour moi, c'est évident. Deux clubs, moi, que je vois peut-être, mais il faut évidemment qu'ils règlent. C'est un gros point d'interrogation. Il faut que tu règles ton problème de carrière. Les Broncos,
ouais,
et Washington. Je désespère pas vraiment sur Washington. Je trouve qu'ils ont quand même des bons éléments en place. J'aime beaucoup Ron Rivera comme entraîneur-chef. Moi, j'ai l'impression, tu sais, faut pas oublier, cette année, la défensive a été horrible, mais l'autre année d'avant, elle a été extraordinaire. Je pense pas qu'on a vu vraiment le vrai visage, nécessairement, de Washington, cette année. Puis au niveau de Denver, moi, j'adore, ils ont des bons jeunes joueurs. La tertiaire va être extraordinaire
mais
dans quelques années. Donc, pour moi, les Broncos sont en voiture. Ces deux équipes-là, s'ils trouvent, ils solutionnent leurs problèmes de carrière, ben, ils vont être vraiment à surveiller. Pour les équipes qui sont dans le trouble, les Rams, dans 5 ans, je vois, ça va tellement fesser, là. Parce qu'à un moment donné, ils verront que là, ils peuvent plus gagner, leurs joueurs sont vieillissants, puis là, ils auront à peu près rien pour revenir à un haut niveau. Ça va être, selon moi, une très longue reconstruction.
Je leur souhaite sérieusement 1 ou 2 Super Bowl parce que ça a coûté cher ce qu'ils ont fait.
Oh, Charles Tremblay nous pose la question. Avec la fin de saison, est-ce que Jimmy G vient de confirmer son poste de partant pour l'an prochain?
Absolument.
Son poste de partant, pas à San Francisco en tout cas.
Exact. Moi, je pense que même s'il remporte le Super Bowl, j'ai quand même l'impression que les Niners vont se départir de lui l'an prochain.
Ah ouais.
Ben, ils ont Trey Lance qui attend, là. Faut pas oublier ça. Là, il avait pas d'expérience. Il sort d'un programme NCAA de deuxième ordre. C'était sûr qu'il allait pas jouer cette année à temps plein, là. Fallait que, c'était utopique d'imaginer qu'il allait être partant dès le jour 1. Mais l'an prochain, Shanahan, là, il va vouloir le voir, son jeune. C'est pas le genre de gars.
Non seulement ça, mais ils ont payé cher pour l'avoir aussi.
Et voilà.
Donc, oui, à un certain moment donné, c'est sûr que Trey Lance va être dans l'équation. Et Jimmy G, selon moi, qu'il se trouve une autre équipe. C'est aussi,
je pense quand même que les Niners peuvent avoir une valeur intéressante pour lui. J'ai l'impression qu'il y a une équipe quelque part qui va lever la main et qui va dire, écoute...
Mais il y a tellement d'équipes qui se cherchent aussi de, ouais, bons carrières qu'il peut être la solution à court terme, moyen terme.
Est-ce que les Buccaneers vont ressembler à l'équipe qu'ils ont en ce moment, nous demande Eddie Darak, ou est-ce que les Buccaneers vont changer complètement de visage l'an prochain?
Brady va être là, mettons qu'on prend pour acquis qu'il est là, donc les Bucs vont être encore performants, mais honnêtement, si tu regardes la longue liste d'agents libres qu'ils ont...
C'est fou.
ça va être une équipe complètement différente. Tu sais, je vous fais l'inventaire rapidement là, des principaux. Évidemment, je nommerai pas les toute la gang, mais Chris Godwin, Leonard Fournette, Ronald Jones, Jason Pierre-Paul, Ndam Okongsu, le centre Ryan Jensen, Carlton Davis, le demi de coin, Jordan Whitehead, le maraudeur. Hey, c'est pas des pieds de céleri que je viens de vous nommer là, les gars.
Tu sais, ça va. Aussi?
Gronkowski, oui, c'est vrai. Gronkowski, qui est agent libre.
Fournette.
Fournette, oui, je l'ai nommé.
Okay.
C'est énorme, là. Fait qu'ils pourront pas tout retenir ce monde-là. Ils vont peut-être en garder quelques-uns, mais le visage de l'équipe va changer. Sauf que tant que Tom Brady est là, que Mike Evans est là, qu'ils ont une bonne ligne offensive, mais là, c'est sûr qu'ils peuvent perdre Jensen, mais quand même, là, ils ont généralement une bonne ligne à part de lui aussi. Ça reste une bonne équipe, mais le visage va assurément changer.
Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu le style des Bulls dans The Last Dance, mais différent. Si les Bucks remportent un autre championnat, ben, y en a plusieurs qui vont revenir puis demander, ils vont faire, OK, je vais faire une autre année avec un salaire.
Bon.
Ben, c'est dur de vouloir se dissocier d'une équipe qui remporte des championnats. Donc, c'est un peu ma vision. Par contre, est-ce qu'ils vont remporter? Ben écoute, on va avoir la réponse dans pas très longtemps, les gars.
OK, merci. Question quiz pour cette semaine, les gars.
Mmh,
les Pats se sont fait traverser en fin de semaine par les Bills. On a vu que Bill Belichick, derrière son masque, semblait un peu déçu, mais résigné de la performance de son équipe. 7 drives, 7 touchés. Pour les Bills. Bill Belichick n'a toujours pas gagné un match en série s'il n'a pas Tom Brady derrière le centre. Qui est le dernier quart arrière avec qui Bill Belichick a remporté un match en série?
Ça remonte à...
Qui n'est pas Tom Brady, là, c'est ça que je comprends?
Exact.
Ouais, c'est ça. Ça serait Bernie Kosar avec Cleveland?
Mmh, évidemment, t'as la bonne équipe, mais ce n'est pas Bernie Kosar.
C'est qui jouait corps arrière cette année-là?
Mon Dieu.
Parce que c'est vraiment l'époque des Browns, avant les Pats, mais je me rappelle plus qui avait remplacé Bernie Kosar.
C'est qu'on l'a jamais remplacé, Steph. Il y a eu 20 gars qui se sont succédés.
C'est Vinny Testaverde.
Oh my God. Oui, c'est vrai.
Eh oui, alors en 1994, la dernière victoire de Bill Belichick en série, quand le carrière qui joue pour son équipe ne s'appelle pas Tom Brady.
C'est une excellente question, Jean-Luc.
Oui, très bonne question.
C'est la pause qui nous attend et ensuite, c'est vos prédictions. Vous avez eu une semaine de 6-6, je vais tout de suite vous vanter là, avant que vous en fassiez autant au début du prochain segment. Restez là, après la pause, la semaine de série... Et l'arrivée des gros canons, bougez pas.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
C'est le moment des prédictions pour cette semaine dans la zone payante. C'est Jean-Nicolas Gagnon en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette. Dites-les, les gars, c'est quoi votre bilan de la semaine passée, là?
C'est, ben écoute, on est un tandem parfait. 606, Mr. Perfect.
Bravo.
C'est plus simple que ça.
Ça veut dire qu'on peut être 0-4 cette semaine, puis quand même passer notre examen après 2 semaines.
Moi aussi, je calculais ça comme ça. On se rejoint. On va commencer, si vous voulez bien, les gars, pour cette semaine. C'est l'arrivée des gros canons, c'est l'arrivée d'Aaron Rodgers, c'est l'arrivée de Derrick Henry en série qui vont affronter des équipes qu'on s'attendait pas à voir au deuxième tour. Alors allons-y, on va commencer par les Bengals qui s'en vont à Tennessee affronter les Titans. Est-ce que Derrick Henry va être rouillé ou au sommet de sa forme? À voir.
C'est la grande question dans ce match-là. Puis l'autre grande question, est-ce qu'il va être rouillé ou pas, mais aussi quelle charge de travail on va lui donner. Je pense qu'on va y aller all-in avec Derrick Henry, là, mais il y a quand même cette question-là qui plane dans l'air. Ça fait un bon bout qu'il n'a pas joué. Ce qui est incroyable de Derrick Henry, c'est qu'il a raté quoi, la moitié de l'année ou à peu près? Il est encore le 9e meilleur porteur de ballon en termes de verges récoltées dans la Ligue. Ça te montre à quel point il était archi-dominant en début de saison avant de tomber. Donc ça, c'est la grande question. Puis les Bengals, habituellement, c'est une bonne équipe contre la course. Ils sont 7e contre le jeu au sol, sauf que ils viennent de perdre un gros morceau. Leur plaqueur, Larry Ogunyobi, qui est tombé au combat la semaine passée, il sera pas là. L'ailier défensif Trey Hendrickson, qui a subi une commotion, c'est un cas incertain au moment où on se parle. C'est des grosses, grosses questions. Tu sais, je pense que Cincinnati, pour limiter le jeu au sol des Titans, ça prend tous les morceaux nécessaires. Ça, c'est un point qui m'inquiète là, de ce côté-là. Les Titans, une défensive améliorée beaucoup par rapport aux dernières années. On a tendance à penser à l'année qu'ils sont rendus en finale de conférence en 2019, puis l'an passé en série, en se disant ben c'est l'équipe de Derrick Henry, oui, mais la défensive est beaucoup mieux que ce qu'elle était. Écoute, par la passe, on sait que c'est la force des Bengals. Par la passe, là, les Titans, ils font partie d'un groupe de seulement 8 équipes qui ont donné qui n'ont pas donné plus que 245 verges de passe par match. Donc, ça veut dire qu'ils sont potentiellement capables de limiter les dégâts. Je pense pas que tu peux contenir complètement l'attaque aérienne des Bengals, mais je pense que les Titans peuvent limiter les dommages. Puis, petite stat intéressante, ça veut rien dire pour le futur, mais je trouve ça le fun de mentionner quand même des petits éléments historiques comme ça. Les Bengals n'ont jamais, à ce jour, gagné un match de série sur la route. Dans l'histoire de leur franchise, 0 et 7 sur la route. Donc,
ben déjà, ça faisait 31 ans qu'il avait gagné une game. Là.
Ouais, ça aidait pas, là. Fait que c'est ça. Moi, je vais, de mon côté, je vais y aller avec une victoire des Titans serrée. Je sais que la semaine passée, on vous a vendu des matchs serrés et que ça n'a pas été vraiment ça. Mais je pense que cette semaine, on va être vraiment servi de ce côté-là. J'y vais avec une victoire des Titans par 4 points. Quand même pas mal de points là, marqués dans ce match-là. On va y aller avec un 31-27.
De mon côté, ben écoute, c'est un bon résumé de Stéphane. Puis faut vraiment les blessures sont importantes du côté des Bengals. Pour moi, la clé du match va être la tertiaire de Tennessee qui va faire face à l'attaque aérienne des Bengals. C'est là que si les Bengals ont une chance dans ce match-là, c'est là que ça va être. C'est là que ça va se passer. Moi, j'ai un peu l'impression, comme Stéphane, que Tennessee va être en mesure de pas les arrêter, mais de contrôler un peu ce qui va se passer de ce côté-là. Puis elle a été. La défensive des Titans, elle a été très, très bonne cette année à domicile. Donc je vais favoriser les Titans également. Je m'attends pas nécessairement à quelque chose de si monstrueux que ça de Derrick Henry. Moi, je pense au contraire que ça va peut-être ouvrir plus le jeu aérien des Titans. Puis honnêtement, je m'attends pas à un match si serré que ça. Je vois les Titans qui l'emportent par 31-21. Victoire des Titans face aux Bengals.
Le spread est de 3.5 à l'heure où on se parle. San Francisco s'en va à Green Bay. Ça, c'est le plus gros spread de la fin de semaine. 5.
Oui, mais pour Green Bay, ben il y a l'état de santé évidemment de Nick Bosa, commotion cérébrale. Est-ce qu'il va être de retour? Ils en ont besoin. On n'a pas.
Les Niners.
Ouais, c'est quoi j'ai dit?
Les Packers.
Oh mon Dieu, non, Nick Bosa évidemment les Niners. Fred Warner qui est pour moi crucial dans la défensive des Niners. Lui aussi c'est une blessure à la cheville. On ne sait pas encore l'état de santé. Il y a Trent Williams, mais ça a bien été.
Ça a l'air que ça s'annonce positif dans le cas de Warner, mais la grosse question, c'est à combien de pourcents de ses capacités habituelles?
Ça aussi, exact.
Parce que c'est un gars qui est vraiment extraordinaire, notamment en couverture de passe. Contre les Packers, on n'a pas besoin de vous dire qu'un gars comme ça, on peut pas s'en passer.
Puis il est capable de couvrir souvent beaucoup de terrain. Tu sais, quand on dit les cours de sideline à sideline, de ligne de côté à ligne de côté, ben, ça, il le fait très rapidement. C'est dur de le contourner au niveau du jeu terrestre. Donc, ça se peut que ça soit plus limité. Là. Il y a Trent Williams, mais il a bien fait face à Dallas. Il devrait revenir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu de Trent Williams, la photo qu'il a prise
ben avec
les partisans des Cowboys, c'est du bonbon. Lui, fait des babayes aux partisans des Cowboys et se fait envoyer promener d'aplomb sur les photos. C'est quand même très drôle. Du côté des Packers, l'état de santé, c'est vraiment bien. Il y a peut-être Jair Alexander qui il a une blessure à l'épaule, devrait être là, mais écoute, c'est ça. Pour le match en tant que tel, ben honnêtement, moi je pense que c'est peut-être un peu trop demandé aux Niners d'aller à Lambeau Field, un peu magané, sort d'une grosse victoire. Je le sais qu'ils ont le vent dans les voiles, mais à un certain moment donné, la commande elle commence à être grande. T'as les Packers qui les attendent de pied ferme. Je pense que les Packers ont aussi vont être en mission avec Aaron Rodgers. Moi, je vois les Packers qui l'emportent. Encore une fois, je prends un petit peu plus qu'un touché. Je vois par 10 points victoire des Packers. 27-17 face aux Niners. Puis, un des points que j'aime beaucoup, Green Bay, si tu veux les battre, faut absolument que tu les battes. Tu peux pas, ils se battront pas eux-mêmes. C'est la meilleure équipe, ou un des meilleurs ratios au niveau des revirements cette année. Mais évidemment, quand t'as Aaron Rodgers qui lance seulement 3 interceptions dans toute la saison.
Dont 2 au premier match.
C'est ça, là. Tu sais, ça te donne une idée, là. C'est vraiment une équipe qui se tire pas dans le pied. Donc, selon moi, ils vont être efficients encore. Et ça va être assez pour l'emporter face à San Francisco.
C'est un excellent point que tu amènes sur le fait que les Packers se battent jamais eux-mêmes. T'sais, combien d'équipes, là? Les Cowboys, il y en a d'autres, là. C'est pas les seuls. Les Cards, on l'a vu quelquefois cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui se tirent dans le pied à tout moment, là. Tu sais pas trop quel genre de match ils vont sortir. Les Packers, là, sont pas mal réguliers comme un métronome, là. Puis, on t'a parlé de l'état de santé des Niners, puis je pense qu'il faut aussi souligner l'état de santé, justement, du corps arrière Jimmy Garoppolo. Ouais. Il a son pouce, mais pourquoi il a été si inefficace en deuxième demi contre les Cowboys? Son jeu a vraiment droppé en deuxième demi, si vous regardez les chiffres. Il s'est blessé à l'épaule aussi. On parle d'une contusion, je pense. C'est une blessure... Il semble qu'il va jouer, mais il y en a qui s'inquiètent à l'intérieur de l'organisation, de ce que j'ai lu, à quel point il peut être efficace. On se demande même, est-ce qu'il devrait jouer? Tu sais, il y a beaucoup de questions là, concernant son épaule, son pouce. Tu sais, quand des détails comme ça s'additionnent dans un match d'importance capitale comme ça, on va mettre Trey Lance à la place. Le gars, il a pas d'expérience. Tu sais, c'est vraiment difficile d'arriver d'un environnement comme Green Bay. Les Packers, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu un match à la maison cette année. Par contre, s'il y a un club qui peut rudoyer les Packers, c'est bien les Niners. Ça, il faut le dire aussi. Ça fait 3 fois qu'Aaron Rodgers et les Packers perdent contre les Niners en série. Je pense que la dernière fois, c'était en finale de conférence en 2019, quand les Niners étaient allés au Super Bowl. T'sais, c'est une équipe qui est capable de brasser le San Francisco. C'est pas une équipe qui va avoir peur d'aller jouer dans le froid. Ils ont les éléments pour se battre dans le froid, dans la toundra. Ça, c'est pas un côté qui me fait peur du côté de San Francisco. Moi, c'est plus le bilan de santé et à quel point le corps arrière va être un facteur dans ce match-là. Je pense qu'on va voir beaucoup, beaucoup de têtes fromagées dans la boîte, près de la ligne de mêlée. On va vouloir contrer le jeu au sol. Puis on va dire à Jimmy Garoppolo, OK, viens nous battre. Puis ça, je suis pas convaincu que ça peut arriver. Donc, j'y vais avec une victoire des Packers aussi. Un petit peu plus conservateur que Jean. Jean, t'as dit quoi? 10 points?
Oui.
Moi, j'y vais par un touché. Un match, je pense que ça va être un pointage pas si élevé, là, dans la vingtaine. Un 23-16 Packers, disons.
Les Rams, eux, s'en vont à Tampa Bay pour affronter Tampa Tom. Est-ce que les Rams, ils s'en viennent là, ils sont les négligés, mais ils sont quand même favoris avec tous les joueurs et l'argent qu'ils ont sur le terrain.
Là, il y a un point, on parlait encore, puis c'est pas toujours pour parler de la même chose, l'état de santé, mais il reste que c'est très important
c'est
dans
majeur.
Ce match-là. Tristan Wirfs, le bloqueur à droite, puis Ryan Jensen, le centre. Écoute, là, s'ils jouent, ils jouent sur une patte les deux. Tu joues contre Aaron Donald, Leonard Floyd et leur bande de sauvages. Ça peut faire mal, honnêtement. Là.
N'oublions pas Von Miller dans les coups.
Non, exact, là. Exact. J'ai tendance à l'oublier parce qu'il vient d'arriver, mais je pense qu'il y a comme 6 sacs depuis qu'il est avec les Rams, quelque chose comme ça. T'sais, il a ressuscité vraiment. L'autre problème potentiel, Brady, tu sais, il n'a plus le luxe qu'il avait avant avec Chris Godwin qui n'est pas là, Antonio Brown qui n'est pas là. Mike Evans risque d'être sur une île avec Jalen Ramsey. Écoute, il est capable, là. Mike Evans, c'est un receveur très physique, mais c'est pas comme si tu pouvais dire, c'est pas grave, Ramsey le couvre, on va avoir Godwin de l'autre côté, là. C'est plus du tout la même game. Je sais là que écoute, tout le monde est émerveillé parce que Stafford a sa première victoire en série. De l'autre côté, il y a un certain Tom Brady qui en a 35. Fait que lui est plus ou moins impressionné par ça. Mais je pense que la défensive des Rams peut aller chercher ce match-là. Je vais y aller avec une victoire des Rams de mon côté par 3 points. Ça va être serré là, jusqu'à la fin. Un 23-20 Rams.
Mais il y a beaucoup de choses.
Puis je le sais, il ne faut pas parier contre Tom Brady. Je le sais, là. Dites-nous-le pas, on le sait. Mais je le fais pareil.
J'aime ça. Ça m'énerve un petit peu, Stéphane, parce que j'ai les Rams également.
Décidément, on ne se chicanera pas dans ces playoffs-là.
Ouais, ça me dérange, mais écoute, il y a bien un match qu'on ne sera pas nécessairement d'accord. Je pense juste que c'est difficile pour les Bucks. Quand Fournette ne devrait pas jouer non plus, normalement, il est loin d'être à 100% encore. Pour moi, c'est peut-être un joueur qui aurait pu faire la différence.
Playoff Lenny.
Tu vas dire qui va me battre? Ça va être Miller, le receveur? Je pense pas. Ça va prendre un match monstrueux de Gronk. Puis je sais que Tom Brady est tellement bon pour utiliser ses receveurs à gauche, à droite, puis lancer dans le flanc ses porteurs. Mais les Rams vont le savoir. Ils vont être en mesure d'appliquer de la pression. Je pense juste que ça va être difficile offensivement. Puis Brady, je le sais que c'est un carrière incroyable, mais c'est pas nécessairement un surhomme non plus. S'il bat les Rams, pour moi, peut-être qu'on va pouvoir y donner un... Il y a déjà le titre de GOAT, mais je pense qu'on pourra y mettre le sous-titre ou l'épithète de demi-dieu. Parce que là, je commence à trouver que c'est beaucoup. Ouais. Par contre, les Bucks ont une chance aussi d'être dans ce match-là. Parce que je suis pas convaincu de l'attaque des Rams va faire ce qu'elle veut avec la défensive des Bucks qui ont retrouvé de la santé. Ils vont être en mesure d'arrêter le sol, selon moi, des Rams. Et offensivement, ben, je pense que ça va être, je m'attends à un match défensif. Et je favorise les Rams, pas par beaucoup. Mais écoute, 13-7. Non, peut-être un peu plus. 20-17 victoire des Rams.
On a les Rams par 3 les deux.
Ouais, je m'attends à quelque chose de serré, mais je sais pas comment Tom Brady peut sortir un lapin de son chapeau dans celle-là. Je trouve qu'il commence vraiment à être handicapé. Pas lui, mais en raison des éléments qu'il a sous la main.
C'est sûr qu'avec Stafford, avec son jeu au sol, il fait moins de gaffe.
Ça, c'est l'autre élément qu'on n'a pas mentionné. Juste finir là-dessus. Je veux pas qu'on s'éternise sur ce match-là, mais Cam Akers, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé qu'il virait sur un 10-10 qui était explosif, comme s'il avait jamais, il s'était jamais déchiré le tendon d'Achille. Il m'a franchement impressionné dans le match de lundi.
S'il y a la moitié du match de lundi, d'après moi, les Bucks vont être sortis.
C'est sûr qu'on court pas beaucoup contre les Bucks. On le répète à chaque fois, puis on l'a vu avec les Eagles. Mais Cam Akers amène une autre dimension. Il peut contribuer sur le jeu aérien. C'est vraiment une arme. Là, je ne savais pas à quel point il allait revenir en santé avec une blessure aussi grave après 5 mois de réhabilitation. Ça nous montre à quel point c'est un athlète spécial et à quel point la médecine a fait des progrès extraordinaires.
Les Bills s'en vont à Kansas City. Ça, c'est le match qui risque le plus... en tout cas, même on espérait quasiment que ce soit la finale d'association. Les Bills contre les Chiefs à Kansas City.
Je pense qu'on va être servi au niveau spectacle, là, du moins. On regarde ça, puis... Comment on peut avoir un mauvais match? C'est presque impossible. Je vois pas comment ça peut être mauvais. Deux carrières qui sont présentement au sommet de leur art. Josh Allen qui a très bien fini la saison. Puis la première ronde de playoff, il était en ultra feu. De l'autre côté, Mahomes, ben on n'a plus besoin de le définir. Il est extraordinaire également. Je pense que ça va être un match offensif. Je pense que les Bills ont le X Factor parce que Josh Allen, s'il joue le moindrement dans les eaux ou dans au même niveau qu'il a joué contre les Pats, je vois difficilement comment les Chiefs peuvent le battre. Mais les Chiefs ont joué cette année contre les Bills. Ils l'ont vu, ce Josh Allen-là. Moi, je pense qu'ils vont arriver avec un meilleur plan de match. La défensive des Chiefs n'est pas du tout la même que contre quand ils s'étaient rencontrés là, en début de saison. Elle joue beaucoup mieux. C'est la même au niveau des éléments, mais collectivement, ils jouent, je pense, ils jouent de façon nettement plus efficace. Je pense pour les Chiefs, je vais y aller avec un match 37-31. Victoire des Chiefs à la maison. Ça va se décider probablement dans les derniers instants du match.
Écoute, c'est intéressant que tu mentionnes notamment que la défensive des Chiefs n'est plus la même là, que quand ils se sont pognés en début d'année. Ça, c'est sûr que c'est différent. Par contre, tu regardes ça, Josh Allen est tellement devenu dangereux. Puis on le savait là, par la passe, on le savait par la course. Mais franchement, par la course, il est vraiment en train de m'impressionner parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est pas un Lamar Jackson, c'est pas un Kyler Murray, mais il brise des plaqués, il court fort, il court lourd. Est-ce qu'il s'expose au risque? Évidemment. Mais honnêtement, il amène une dimension complètement différente à cette attaque-là. Ce que j'ai aimé dans le match de la semaine passée face aux Patriots, il y a 9 joueurs différents des Bills qui ont pogné des passes. Ça, ce que ça me dit, c'est que c'est plus juste la connexion Allen-Diggs. Il y a beaucoup plus que ça. J'adore, entre autres, comment on utilise Cole Beasley puis Isaiah McKenzie. Tu sais, Cole Beasley, traditionnellement, c'est le slot receiver, donc l'ailier inséré. Mais McKenzie, c'est un peu son rôle aussi, mais là, on l'amène sur le jeu au sol. On l'a utilisé un peu à la Deebo Samuel, j'ai trouvé la semaine passée, contre les Pats. Puis c'est important d'être créatif avec un joueur explosif comme ça. Ça devrait servir la cause des Bills. Puis il y a un élément que j'aime aussi, on en parle peu actuellement, mais dans leur séquence actuelle de 5 victoires, les Bills, Devin Singletary, qui était un non-factor toute l'année, il vient de gagner 404 verges et 8 touchés dans cette séquence victorieuse-là. Je pense que ça sert la cause des Bills. Ça va être un match explosif. C'est le premier match de l'histoire des séries qui va opposer 2 corps arrière qui viennent de lancer 5 passes de toucher chacun à leur dernier match. C'est une belle rivalité, là, Josh Allen, Patrick Mahomes, qui va être là pour les années à venir. T'as dit 34-31, Jean?
37-31.
Je suis proche de ça, 34-31, mais on a notre première Discord. Je vais donner la victoire aux Bills dans l'environnement hostile de Kansas City.
J'aime ça. Juste peut-être mentionner pour le match, les deux équipes sont relativement en santé. Là. Peut-être juste Clyde Edward-Heller, le porteur de ballon, qui est incertain, peut-être qu'il va qu'il va être en mesure de jouer, on ne sait pas encore.
Mais quelle trouvaille que Jerick McKinnon.
Oui, c'est ça
que
j'allais dire. On s'entend que McKinnon, il n'y a personne qui se demandait où était Edward-Heller la semaine passée.
Non, ça va
une
bien.
Belle trouvaille. Il était bon avec les Vikings dans le temps. Il a eu un gros contrat à San Francisco, mais il a été dévasté par les blessures. Il n'a pas joué pendant 2 ans. Là, il ressort en série comme une bombe. C'était une belle histoire.
OK. Le bar nous attend après la pause. J'espère que vous avez vos clients. Bougez pas. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. Ça y est, c'est l'heure de notre segment au bar avec... des clients qui s'y retrouveront cette semaine après avoir gaffé ou après avoir eu l'air fou. Commençons, Stéphane. Qui t'en va au bar cette semaine?
Pour moi, c'est un candidat évident parce qu'il a un peu fucké le premier week-end des séries. C'est Jerome Boger, l'arbitre et son équipe du match des Raiders et des Bengals. C'est dommage parce que c'était un bon match. Ça commençait bien. Puis, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de bons matchs. Là. On l'a dit, les gars, la semaine passée, là, ça n'a pas été évident. Il y en a eu 2 sur 6. Puis les 4 autres étaient des volées là, complètement débiles. T'as un bon match, tu veux parler du bon match. Puis de tout ce qu'on parlait après ce match-là, c'est le fameux toucher des Bengals qui aurait pas dû être accordé parce que il y a un arbitre dans l'équipe de Boger qui avait sorti son sifflet trop rapidement. On rappelle le jeu. Joe Burrow court près des lignes de côté. Il tente de repérer un receveur. Finit par trouver son receveur dans le fond de la zone des buts. Mais l'arbitre pense qu'il a mis le pied en dehors, ce qui n'est pas le cas. Il siffle. Donc, en théorie, selon le livre des règlements, le jeu devrait être mort, puis on reprend. Donc, il n'y aurait pas eu de toucher. Sauf qu'il a sifflé vite. Écoute, en faisant ça, il volait une des deux équipes, assurément. Parce que il aurait volé les Bengals d'un toucher clair, qui était même pas proche de pas être bon. Mais en sifflant, ben, il se trouve à arrêter le jeu. Donc, il vole les Raiders parce que le jeu n'aurait pas dû avoir lieu. T'sais, d'une façon ou d'une autre, les deux équipes étaient perdantes. C'est plate parce que ça a fait parler beaucoup, ça a volé le spectacle. Puis on est tanné que les arbitres volent le show. On n'est plus capable. C'est arrivé trop souvent cette année. Je comprends que c'est des humains. Je comprends qu'ils ont droit à l'erreur. Mais honnêtement, cette année, ça n'a pas été l'année la plus chic au niveau de l'arbitrage. C'est dommage. Ça va être, je pense, un point d'emphase dans la saison morte pour la NFL. Si ça ne l'est pas, il y a un sérieux problème. Donc, M. Boger, qui va aller représenter son équipe au bar, on va y concocter un cocktail que j'ai découvert qui s'appelle le Blind Gin. Donc, le gin à l'aveugle. Je pense que c'est approprié, messieurs.
Bravo.
Très bien approprié.
Une petite dose de cognac, un peu de curaçao, du gin et du orange bitter. Ça fesse quand même là, comme mélange. C'est assez alcoolisé. Ça fesse au point de ramener la vue, je dirais.
Mais on a compris que son équipe ne signera pas en fin de semaine.
Et ils sont quand même en punition.
Ils sont en punition, mais ça n'empêche pas une punition additionnelle d'aller au bar.
Ah oui, donc. Johnny Boy?
Écoute, je me tourne vers l'équipe de l'Amérique. Les Cowboys.
Tu fais bien de le préciser parce que moi, je suis plus sûr que c'est l'équipe de l'Amérique.
Non, écoute, ça fait longtemps que c'est peut-être plus l'équipe de l'Amérique, mais j'aime leur donner cette...
T'es sarcastique, c'est ça.
Écoute, au lieu peut-être d'accepter ce qui s'est passé, puis se regarder dans le miroir, puis dire « Ouais, on s'est fait brasser pas mal par les Niners, puis c'est peut-être pour ça qu'on a perdu », plusieurs joueurs des Cowboys, eux, ont trouvé que c'était peut-être l'arbitrage et pas leur indiscipline le problème. Et Dak Prescott, lui, à la fin du match, il a commencé à chahuter, si tu le veux, les spectateurs, parce que les spectateurs lançaient des débris sur le terrain. Puis il dit, on mérite pas ça, les joueurs, on mérite de jouer dans un environnement sécuritaire. Ça n'a pas de bon sens. Et là, il y a un journaliste qui l'a interrompu, puis il dit, c'est que je pense pas qu'il vous visait les joueurs, je pense qu'il visait les arbitres. Ah, puis là, il a changé son fusil d'épaule, puis il a dit, ben le mérite leur revient d'abord. Et c'est pas nécessairement la citation la plus non, intelligente de Dak Prescott.
Fort,
c'est vraiment, vraiment pas fort. En plus, les arbitres avaient raison dans ce cas-ci. Ils ont appliqué les bons règlements. Je pense Dak s'est excusé depuis par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il a dit qu'il n'aurait pas dû dire ça. Il était frustré, ainsi de suite. Je peux comprendre. C'est pas une méga punition, mais j'envoie Dak au bar et je donne souvent ce que les retraités prennent. Un bon apérol spritz. Fait que c'est 3 onces de vin mousseux. 2 onces d'apérol, un peu de club soda, glaçon, une petite demi-rondelle d'orange. Puis je vais dire, tiens mon Dak, maintenant tu peux apprécier toute ton entre-saison comme ça.
Ça fait longtemps que t'es allé dans un bar parce que des jeunes milléniaux avec des apérols spritz, là,
Ouais, je sais que c'est revenu par contre à la mode, mais,
mais c'est vrai.
Je trouve que ça fait un bon drinks quand même de 5 à 7 off-season.
Merci, messieurs. Bon match en fin de semaine. Bonne deuxième semaine de série. On va se reparler la semaine prochaine avec, je l'espère, encore des bons matchs. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de La Zone Payante. Merci. Bye.